Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des outils et des stratégies pour vous aider à monter votre marque. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent. Je suis entouré de plusieurs entrepreneurs et acteurs de la mode. Ils ont tous en commun de faire partie du programme Talent, le programme initié par la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Ce programme a pour objectif de renforcer les compétences du dirigeant d'entreprise, encadrer la phase de structuration d'une marque créative à fort potentiel commercial. En ce qui concerne mes invités, les uns sont coachs du programme, les autres sont des fondateurs de marques accompagnés. On va faire un rapide tour de table pour les présenter, mais l'objectif de cet épisode est de partager leur retour d'expérience sur les premières années d'entrepreneurs dans la mode. On va parler plus spécifiquement de sujets qui reviennent tout le temps dans le podcast, à savoir les tout démarrages de l'aventure, la plateforme de marque, la stratégie de distribution, la stratégie de communication, le recrutement, les premiers recrutements, l'organisation des fondateurs au quotidien. Ils vont, j'espère, nous partager des clés et nous expliquer comment le programme Talent leur a permis de trouver ces clés. Pour commencer cet épisode, je vais me tourner vers la fondatrice et la coordinatrice du programme, Priscilla Gioco, et vers le coach business du programme, Guillaume Lambert. Est-ce que vous pourriez vous présenter vraiment en 5 phrases et nous présenter rapidement le programme Talent, la genèse de ce projet initié par la Fédération française du prêt-à-porter féminin? À toi, Priscilla.
Alors, donc, je vais me présenter. Donc, moi, je travaille au sein de la fédération depuis à peu près 8 ans. Je dirige le service entreprise et l'objectif du service est d'accompagner les marques sur le développement économique. Sur leurs premières années d'activité, donc, j'ai un portefeuille qui va de 0 à 10 millions d'euros avec un cœur de cible de 200 à 3, 4 millions d'euros. Et en fait, donc, je suis toute seule à faire ça. Et donc j'ai un champ de compétences qui est vraiment sur la partie stratégie d'entreprise, stratégie de commercialisation, marketing produit, et voilà.
D'accord.
Avec une finalité qui est bien sûr sur le financement. Mais sinon, il y a plein de choses que je sais pas faire et que je ne connais pas. Et en fait, l'idée du programme, c'est né vraiment de ma frustration à pas pouvoir accompagner les marques sur toutes les problématiques qu'elles rencontraient. Et effectivement, ça a été de se dire bon bah comment je peux faire pour aller plus loin. Donc j'ai construit un projet d'accompagnement, donc un projet au niveau du programme Talent que j'ai soumis à des filles, qu'à Clarisse Rey, pour lui dire ok bah voilà, moi je veux me constituer une dream team autour de moi avec différents piliers d'accompagnement. Et est-ce que le défi en fait est aujourd'hui capable de m'aider à financer ce projet pour accompagner 5 marques. Donc c'est vrai que le service lui va accompagner entre 50 et 100 marques par an. Et donc je savais très bien que je pouvais pas accompagner de manière très qualitative toutes ces marques-là, et je me suis dit bon, je vais en choisir 5, ça va être pas mal. Et après je vais mettre autour de ces 5 marques un certain niveau d'experts pour les accompagner.
Très bien. Guillaume ?
Donc Guillaume Lambert, je suis coach du programme Talent depuis 2 ans. J'ai fait les 2 éditions du programme avec bonheur. J'ai eu moi-même des aventures entrepreneuriales dans l'industrie de la mode. J'accompagne des marques dans leur développement depuis plus de 2 ans maintenant. Et Priscilla, quand on en a parlé, quand elle m'a présenté le projet, j'ai trouvé que c'était effectivement très intéressant et c'était une bonne occasion de rendre un petit peu ce que les institutions m'avaient apporté pendant mon aventure entrepreneuriale. La vision qu'on a développée, je pense, avec Priscilla, c'était vraiment de rentrer par la porte opérationnelle. Souvent, c'est plus facile d'aborder les marques dans leurs problématiques immédiates, dans leurs urgences, pour derrière, en tâche de fond, construire une stratégie avec elles. Mais effectivement, bon, on va développer ça, je pense, avec les marques. Mais c'est vraiment cette porte opérationnelle qu'on prend dans le cadre du programme.
Très bien, parfait. Je me tourne à présent vers les marques.
Pourriez-vous vous présenter en cinq phrases, pareil, de façon très synthétique, nous parler en quelques mots de votre parcours avant de vous lancer, de la genèse du projet, ce qui a déclenché le saut dans le vide, avec quoi vous êtes parti, et un petit état des lieux de votre marque avant d'intégrer le programme Talent. Ça fait beaucoup de questions en même temps. Hein. En cinq phrases. Allez, on commence avec Youssouf. Je sens qu'il est chaud, il plus a l'habitude maintenant.
Donc, je me présente Youssouf Fofana, cofondateur de la marque Maison Château Rouge et de l'association Les Oiseaux Migrateurs. Donc, pour revenir rapidement sur l'histoire et la genèse du projet, c'est qu'au départ, avec mon frère, donc, on a lancé une association qui s'appelle Les Oiseaux Migrateurs et qui avait pour vocation de participer au développement de petites entreprises en Afrique. Et on a commencé avec un premier projet qui était un jus de bissap entièrement produit au Sénégal, et il fallait financer ce projet. Donc pour financer ce projet, on a eu l'idée de lancer une petite marque de vêtements toute simple. On voulait se sourcer des matières premières, donc des tissus dans le quartier à Château Rouge, produire à Paris avec les bénéfices, financer notre projet au Sénégal. Et en fait, très vite, on a eu une forte demande autour de la marque. Donc on s'est retrouvé donc dans les plus beaux concept stores, parce que c'était Merci, Le Bon Marché. On s'est retrouvé aux Galeries Lafayette et on a eu une forte demande au niveau international. Donc ce qui nous a poussé à devoir nous structurer sur la partie wholesale et pour pouvoir répondre à toutes ces demandes. Et donc avant le programme Talent, comment je pourrais décrire notre fonctionnement? c'était très freestyle, on va dire, très instinctif, mais parce que après je pense que ça a été nécessaire parce que c'est comme ça qu'on a pu apprendre beaucoup de choses. Et mais par la suite, voilà, on a eu la chance d'intégrer le programme Talent pour pouvoir nous structurer et avoir une meilleure vision et puis réfléchir aussi sur la stratégie et voir à plus long terme.
Très bien.
Bon, on pourra développer plus en détail.
Complètement. Donc je me tourne à présent vers Diane de Sérigny, fondatrice de Miko Miko. Diane, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, en fait, donc moi je viens du graphisme et de la direction artistique image, donc pas du tout du prêt-à-porter. J'ai cofondé avec ma partenaire Nadège Winter une marque de bomber et de sweatshirt. Qui s'appelait Amish Boyish et force de ça, j'ai eu envie d'aller plus loin et de faire un vestiaire complet pour femmes, voilà, en lançant un Miko Miko.
D'accord. Et le grosso modo, Miko Miko, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est?
Donc Miko Miko, c'est une marque de prêt-à-porter féminin avec des accents, des inspirations du vestiaire masculin et un peu british, et puis une grosse ambiance pop très colorée, très graphique, parce que j'arrive pas à me défaire de mon côté graphiste.
D'accord. Et avant d'intégrer le programme Talent, le petit état des lieux rapide.
J'avais fait deux collections, dont une que j'avais pas vraiment commercialisée. Et voilà, j'avais déjà une image posée forte parce que c'est ce que je sais
faire
de mieux.
C'est ton métier, ouais.
Voilà. Donc du coup, ça faisait. J'avais une image très établie quelque part. On avait l'impression que c'était une grande marque, alors qu'en réalité, c'était un tout jeune projet avec 1000 problématiques de plans de collection dont on va parler tout à l'heure.
D'accord. Je me tourne à présent vers Marie et Olivier Dallarche, les fondateurs de UNX Paris.
Donc voilà, UNX est une marque de sportswear mélangée avec de la mode. Donc on a créé cette marque il y a 3 ans maintenant. Et dès la fin de la première année, on a intégré le programme Talent grâce à Priscilla. Olivier avait déjà fait des démarches auprès de la Fédération du prêt-à-porter dès qu'on a créé la marque, qui nous a beaucoup aidé dès le début, que ce soit dans le juridique, que ce soit pour créer la société en tant que telle. Et elle nous a beaucoup aidé dès le début sur la première production qu'on a faite. À l'issue de ça, elle connaissait nos problèmes et donc elle nous a demandé de créer un dossier pour participer à Talent. On a été très contents parce que c'est une période où on s'est demandé si on n'allait pas arrêter la marque.
D'accord.
Parce qu'on savait pas trop comment faire pour la développer. Et ce programme est vraiment tombé à point nommé. On est rentré et ça nous a permis, comme dit Youssouf, de vraiment se structurer, d'avoir de bonnes idées, de savoir comment faire pour les réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrisait pas forcément. Donc dans le programme, on a vraiment réussi à pointer du doigt tous les problèmes et essayer de trouver des solutions à chaque problème. Et donc là, on avait des coachs pour chaque problème.
Trop bien. Et avant de lancer votre marque, c'était quoi le background de
Alors, Olivier a travaillé chez L'Oréal pendant 10 ans. Il a fait de la communication, du marketing. Il a beaucoup travaillé pendant ces années-là. Et moi, je travaillais dans une galerie d'art contemporain spécialisée en art urbain.
D'accord.
Rien à voir avec la mode.
Et l'envie de lancer une marque, ça vient de quoi?
Je faisais des sports de combat et je me suis fait agresser et je me suis défendue. Donc j'avais 3 agresseurs, j'en ai tapé 2 sur 3, le troisième est parti. Je suis rentrée à la maison et on en a beaucoup discuté avec Olivier et on s'est dit qu'en fait toutes les femmes devraient savoir se défendre. Et pour ça, créer une marque de mode qui leur permettrait de se reconnaître entre elles et de faire ce sport de combat pour pouvoir justement s'entraider et créer cette communauté de femmes qui pour nous était hyper importante.
D'accord.
D'où on a créé la marque et les Fight Club.
Très bien. Est-ce que tu peux peut-être nous dire, Guillaume et Priscilla, comment vous les trouvez en fait ces marques-là? Enfin, comment vous les trouvez? Dans quel état vous les trouvez? j'ai cru comprendre que Youssouf nous disait que c'était un petit peu...
Lui, il m'a fait transpirer.
Alors lui, c'est Olivier.
Ouais, Olivier.
Bonjour. Dans un sale état, on était un peu perdus, nous. Alors, plateforme de marque, comme l'a dit Marie, moi, je travaillais dans une entreprise cosmétique, dans laquelle on est formé, justement.
Sur les plateformes de marque.
Ouais, exactement. Et donc, nous, on l'avait trop bien pensé, la plateforme de marque. Si tant est qu'au bout d'un moment, on s'est fourvoyé. Ouais. Et justement, le programme Talent nous a permis de nous recentrer sur notre histoire, de développer l'histoire, de tirer le fil et d'être accompagné pendant toute cette année pour retrouver qui on était et comment on avait pensé la marque et aller dans le droit chemin. Donc je pense que n'importe quelle marque se pose la question de qui il est naturellement, sans pour autant utiliser les gros mots marketing et de communication. Et après, tout l'enjeu en fait, c'est de se dévoyer, de perdre son identité justement.
Et comment vous y êtes pris d'ailleurs? Comment ils ont décousu un petit peu ça?
Simplement, je crois que c'est alors beaucoup de discussions bien sûr avec Priscilla pendant des années à la Fédération française du prêt-à-porter. Et le premier jour avec Guillaume où il nous a dit bon les gars, c'est sympa etc. mais vous vous plantez totalement, faites-vous confiance, regardez qui vous êtes, pensez à ce que vous avez écrit, ce que vous avez fait et continuez dans cette direction-là plutôt que d'aller vers quelque chose qui ne vous ressemble pas, etc. Alors pour la petite histoire, UNX, on a été une marque de prêt-à-porter, donc qui associe le sport et la mode, et on s'est un petit peu perdu au fil des collections vers du prêt-à-porter stricto.
Prêt-à-porter, quoi.
Du prêt-à-porter, exactement.
Pas du tout sport, pas du tout.
Plus créateur. On était accompagné aussi par quelqu'un qui fait de la mode à l'époque et qui était notre directeur artistique et qui a apporté sa vision de ce qu'il savait faire. Et nous, on n'a pas été pas malin, parce que c'est pas le terme, mais en tous les cas, de lui dire
de recentrer le propos.
Ouais. Exactement. Et Priscilla et Guillaume nous ont dit justement. Faites-vous confiance, votre idée est la bonne, il y a un potentiel derrière, parce qu'il y a aussi des enjeux business derrière. Donc écoutez-vous et avancez dans ce sens-là.
Et comment on reçoit ce genre de feedback? Parce que c'est assez direct quand même, hein, quand Guillaume te dit vraiment vous plantez complètement les gars.
Guillaume n'est pas du tout direct.
Pas du tout.
Mais c'est quand même assez violent. Et
franchement, ça fait du bien.
Ouais.
Ouais, ça fait du bien parce que t'as l'impression d'avoir une chape de plomb autour de toi. T'es un peu perdu parce que t'es tout seul. Hein, t'as une marque, tu discutes avec toi-même, même si t'as des interlocuteurs assez réguliers. Mais les fondateurs, c'est nous et l'idée, c'est nous. Donc c'est
surtout que vous êtes.
On est mariés. Ouais.
Vous êtes mariés. Hein.
Ouais,
d'accord.
C'est pour ça qu'on parle. Non, c'est pas ma sœur.
Non, j'étais pas sûr.
On est mariés. Si, si.
Non, et puis
donc vous en parlez tout le temps, quoi.
Si je prends le cas d'Olivier et Marie.
pour le coup, je pense que c'est une des marques qui m'a fait le plus douter. Parce que
merci.
Non, mais c'est vrai.
C'est pour ça qu'elle a créé le programme, en fait. C'est
non,
ça.
Mais je me suis dit, non, mais faut sortir de là, quoi.
Guillaume, tu veux rajouter quelque chose, j'ai l'impression.
Ouais, je voulais revenir sur trois choses qui ont été dites. Il y a Priscilla qui a utilisé le mot, que mon mot préféré, c'est cohérence. Ouais. En fait, c'est la seule chose qu'on fait, c'est tester de la cohérence. Il y a la plateforme de marque qui est venue. Ça, c'est un petit peu l'outil qu'on a, nous, derrière, parce que bon, on a l'habitude, la cohérence du système sur les entreprises, c'est important. Ça génère la plateforme de marque. Et l'humain. Parce que ça, c'est l'élément principal avec lequel on travaille. C'est les humains, des gens qui ont des projets artistiques, qui dit projet artistique, dit émotion, voire émotivité, pardon. Parfois, ça va jusque là. Donc, en fait, on arrive avec des marques qui sont souvent peu structuré, avec un projet fort, c'est pour ça qu'on les recrute. Et tout notre travail consiste à les amener petit à petit à prendre conscience des décalages, des choses qui sont pas alignées par rapport à la structure globale qu'est la société et l'output de performance commerciale que tout le monde vise. Donc c'est ça le cœur. Alors certes, effectivement, Olivier signalait que j'avais été un peu rentre-dedans. C'était pas la première. C'était avec un peu de temps passé ensemble.
Non, la question que j'avais et qu'on posait tout à l'heure, c'était est-ce que toutes les marques, elles sont toutes dans le même état quand elles arrivent. Et peut-être l'autre question, c'est posée différemment, c'est qu'est-ce que vous regardez dans une marque pour la faire rentrer dans le programme talent. Tu nous parles de fort potentiel. Elles ont un fort potentiel. Moi j'ai le sentiment que c'est des vous repérez en elles les diamants qui sont pas encore bien taillés et vous allez les aider, vous allez les tailler, quoi.
Alors pour répondre à ta première question, non, elles arrivent pas du tout toutes dans le même état. Il y a deux exemples d'ailleurs très intéressants autour de cette table, trois avec Diane, mais qui est dans la talent 2. On avait d'un côté Maison Château Rouge où on avait un produit qui est quand même hyper clair, voilà, tout est lisible, mais un manque de structure totale. Voilà, donc ça a été le gros du travail sur Talent 1.
Je souffle à caisse avec le sourire.
Versus Unix, où là, on avait en face de nous des gens, j'avais pas grand-chose à apprendre à Olivier et à Marie, parfois sur des points business ou des choses comme ça. On avait des gens extrêmement compétents, mais après, c'était plus sur positionnement de la marque, son produit, justement, là. D'accord. Où on a dû travailler et re-réfléchir. Donc, elles arrivent pas du tout dans le même état. Mais elles arrivent toutes avec une chose, c'est des besoins. Et c'est assez amusant, maintenant on a pris l'habitude, mais de voir la différence qu'il y a entre le comité de sélection, là où on choisit les marques, où elles se présentent sous leur meilleur jour, et puis ce qu'on voit débarquer
juste derrière. Ce que tu découvres après, quoi.
Ouais. Où là, on arrive avec des vraies problématiques, des vraies urgences, et on passe le début du programme à faire le pompier, en réalité, sur toutes les urgences à traiter, tout en essayant de structurer derrière le développement stratégique de l'entreprise. Ouais. Donc de le distiller au fur et à mesure. Et on traite les urgences en essayant de les rattacher à des points stratégiques.
D'accord.
Pour leur faire prendre conscience petit à petit. Et c'est d'ailleurs une des plus grandes satisfactions, mais aussi une des plus grandes difficultés que j'ai eu dans le programme. C'est ce moment où on bascule vraiment de l'opérationnel au stratégique. Où on leur dit, et ça arrive en fin de programme généralement quand on fait un programme à un an, on sort du programme avec une roadmap, merci, j'ai pas le mot, une roadmap à un an et où tout d'un coup on part en pure stratégie. Et sur la première édition, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait dû repenser parce que je pense qu'on n'avait pas été assez clair en fait sur cette partie-là. Donc c'est quelque chose sur lequel on a bien avancé. Mais effectivement, voilà, c'est tout l'enjeu de l'accompagnement aujourd'hui du programme.
Comment c'est organisé alors ce programme? C'est fait en masterclass, ça, hein? Vous voyez tous les combien? Comment
en fait,
ça fonctionne?
Il y a quatre piliers autour de l'accompagnement de talent. Ouais. Le premier pilier, c'est le coaching business. Donc c'est le coaching récurrent avec deux coachs référents du programme, un profil DG, un profil DAF. qui vont vraiment encadrer la marque sur toute la partie pilotage d'activités, structuration, organisation, besoin de financement et autres. Il y a la partie du coaching expert où là, en fonction des besoins qui sont détectés, on va aller chercher quelqu'un spécialisé en plan de collection.
Donc c'est très sur mesure en fonction des besoins, quoi.
Oui, ouais. En commercial, en juridique, en peu importe. Ensuite, il y a 5 masterclass au cours du programme qui sont des formats collectifs. Donc là, la prochaine, par exemple, c'est sur le réglementaire où on va traiter du droit des contrats. Il y a le format de la communauté qu'on a instauré cette année. Donc, ce sont en fait des drinks où on mélange les deux promotions. L'idée, c'est de créer un format, de quelque chose de très informel pour qu'ils puissent déjà apprendre à se connaître et qu'ils puissent en fait créer peut-être un système d'entraide parce qu'ils sont tous issus de parcours très différents. Il y en a qui étaient merch avant, il y en a qui étaient marketeux, il y en a qui étaient etc. Et c'est vrai que et puis ils ont tous des compétences aujourd'hui qu'ils ont développées sur d'autres sujets. Je prends le cas de Marie et d'Olivier avec un volet production et effectivement ce genre de choses ça crée un système d'entraide entre les marques avec cette coupe fédérale autour du programme qui met effectivement les marques dans un climat de confiance aussi. Donc ça ce sont les 4 volets principaux et le dernier exercice qu'on les oblige à faire c'est le comité de suivi donc qui se réunit 3 fois dans l'année. Donc c'est un comité d'experts avec des personnalités, donc il y a Pierre-François, il y a Clarisse Rey, il y a des chefs d'entreprise, il y a des experts divers. Donc ils sont obligés de faire un point d'étape devant ce comité et l'exercice du dernier comité donc c'est présenter entre guillemets un peu le bilan de cette année et de présenter une roadmap à un an pour aussi permettre aux marques d'avoir une porte de sortie et avec une vision opérationnelle sur au moins un an.
Je me tourne vers UNX parce que voilà ils partent dans pas longtemps. Pour vous, c'était quoi les premiers gros chantiers sur lesquels vous avez avancé et sur lesquels le talent vous a été d'une grande aide?
Alors, je vais juste revenir sur un point de ce qu'a dit Priscilla, c'est que talent, ce que ça nous a apporté sur le côté humain, parce que c'est vraiment hyper important, c'est qu'on a rencontré d'autres marques qui avaient aussi des problèmes. C'est-à-dire que entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux où tout va toujours bien, où c'est toujours génial, où la vie est belle, en fait, on rencontre des gens qui ont les mêmes problèmes que nous et en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul. Donc, talent, c'est aussi ça, c'est rencontrer aussi des marques qui ont des problèmes comme nous, qu'on s'entraide entre nous. Donc ça c'est quand même super. Avec Maison Châteaurouge on travaille beaucoup, avec Fête Impériale, maintenant Karine Lecky c'est une de mes amies. Talent c'est aussi du partage, le partage de connaissances. Et donc du coup on partage ensemble nos difficultés, nos savoir-faire avec toutes les marques. Et ça c'est vraiment hyper important. Donc voilà, alors si tu veux bien me reposer ta question.
Non, ma question c'était les premiers gros chantiers sur lesquels vous avez travaillé.
Nous c'était le repositionnement de la marque.
D'accord.
Okay. C'est-à-dire que nous, tout ce qui était business, comme l'a dit Guillaume, ça roulait, Olivier est bon là-dedans. Donc nous, ce dont on avait besoin, c'était de redéfinir la marque, vers où on voulait aller, mettre tout ça en place. Et on a eu aussi un coaching qui avait été vraiment bien, c'était sur le plan de collection. Pour étoffer notre plan de collection, parce qu'on avait un vrai problème dessus. On savait ce qu'on voulait faire, mais on savait pas très bien comment le mettre en place. Et donc, on a eu un expert qui a été extraordinaire, je peux citer, qui s'appelle Étienne Dereux. Étienne a été extraordinaire, c'est-à-dire qu'il vient et en 2 heures, on lui explique ce qu'on fait, comment on l'a fait. Il regarde notre plan de collection et il nous a aidé à refaire notre plan de collection en 2 heures. Il nous a présenté des fournisseurs qu'il avait, avec qui on travaille maintenant. Ça a été un travail qui a été extraordinaire. En si peu de temps, pouvoir avoir quelqu'un avec une expertise comme celle-ci. Et on ne l'aurait jamais rencontré si on n'avait pas fait talent.
D'accord.
Donc voilà.
Pareil sur le volet commercial où on a rencontré Olivia et qui nous a aidé aussi à nous structurer de ce point de vue-là, essayer de comprendre les enjeux du marché, puisque la finalité de tout ça, encore une fois, c'est de vendre. Mais il faut trouver sa clientèle, etc. Enfin, on n'avait pas du tout la même histoire que Maison Châteaurouge ou que d'autres marques dans le programme. Donc il a fallu qu'on trouve notre consommateur et nos marchés cibles. Donc ça aussi, c'était un gros volet de talent.
D'accord. Il y a d'autres gros sujets sur lesquels vous avez dû
Travailler, bon, après il y a tout le reste.
Ça marche. Alors comme vous devez partir, je sais pas si, je sais pas comment le tourner. Est-ce que, alors moi j'ai une question quand même pour vous. Le fait que vous soyez un couple, est-ce que, enfin, souvent il y a beaucoup de gens qui se lancent en couple. Enfin beaucoup, il y en a plein qui disent non, surtout pas. Et vous le faites. Donc est-ce que vous avez des tips, et quel a été d'ailleurs le feedback de la fédération par rapport à ça?
Le fait qu'on soit un couple.
Ouais.
Bah je pense qu'ils valident. Ouais. Bah, j'espère. Ah, bah, enfin le fait qu'on soit ensemble.
Non mais que vous entrepreniez ensemble.
Après chacun a ses occupations respectives. Moi j'ai mon agence aussi, j'ai une agence de communication et de marketing dans la santé que j'ai montée depuis 10 ans, donc d'accord. Ça c'est mon petit bébé à côté avec mon associé Teddy,
d'accord, okay.
Et Marie elle s'occupe de la partie atelier et de tout ce qui est façon. D'accord. En fait, donc chacun son monde, chacun ses interactions et son univers. Et puis après, sur la partie de marque, non, c'est génial parce que voilà, chacun de ses expériences, on va les mettre sur la table et puis on échange. Non, ça, au contraire, ça nous a. Enfin, je trouve. Hein, maintenant, tu vas me dire peut-être le contraire, mais ça nous a ressoudés. Enfin, c'est énorme. Avant, j'avais pas cette liberté de vie. Mm. Voilà.
Mais alors, j'ai le sentiment sur la partie financement et de votre marque que vous avez développé des activités annexes pour pouvoir.
Ah bah ça c'est un truc qu'on a appris à talent. Hein, ouais. Et effectivement, c'est faut faire rentrer du cash pour pouvoir en dépenser.
D'accord.
Voilà. Okay. Et on a développé effectivement ces annexes. Enfin, ouais. Une autre manière de travailler le business, etc. Pour pouvoir nourrir la machine, parce que lancer une marque ça coûte cher. Enfin, il faut le dire aussi. Hein.
Ouais, non, mais ouais, c'est pour ça le propre du podcast.
C'est vrai qu'on n'a pas de soutien financier. Tout ça, c'est.
Ouais. Donc c'est tout autofinancé, ouais. Et vous le financez grâce à vos activités annexes.
Exactement.
Et grosso modo, les activités annexes, vous pouvez nous dire ce que c'est?
Bah, c'est sur l'atelier, l'agence à côté.
D'accord. Okay. Voilà. Très bien. Super. Je vais vous laisser partir, non?
Ouais, désolé.
Non, on est parti à midi pile, hein, c'est ça, vous m'avez dit.
Bah, oui, malheureusement, on a. Un gros rendez-vous.
D'accord.
Voilà.
Non,
mais merci. Secret, merci à vous.
Moi, j'espère que c'est une bonne nouvelle.
Oui, ça va être une bonne nouvelle. Ouais. Bon, on en discutera.
Ouais, ça marche. Eh ben, écoutez, à très vite.
Merci.
On vous laisse partir.
Je laisse le rose.
Donc, Youssouf, j'ai envie de te poser un peu la même question que pour UNX. Toi, donc, tu nous as expliqué que, on a bien compris que. Quand tu es arrivé, il y avait un peu de désorganisation. Mm-hmm. Quels ont été les premiers chantiers pour Maison Château-Gauche?
Alors, les premiers chantiers, je pense qu'il y avait l'organisation, donc la structuration. Puis aussi, il y avait beaucoup de feux à éteindre. Hein. Ça, je pense que vous êtes tous, vous pouvez témoigner.
Le premier cours, ça a été les calendriers de la mode.
Déjà, ouais. Je pense, il y avait ça d'abord. D'abord, il y avait fallait comprendre et connaître l'environnement dans lequel on évoluait. Parce qu'on s'était jamais posé les vraies questions de savoir quel était ce calendrier de la mode, c'était quoi les dates de Fashion Week, quand est-ce qu'il fallait présenter, etc. Ouais. Et ce qui faisait qu'on se réveillait toujours une semaine avant le début des showrooms. Et là, on se disait, il fallait faire des prototypes. Ah, il faut faire ça, etc. Et on était toujours en retard. Donc, il y avait ce gros volet sur lequel il fallait d'abord prendre beaucoup d'informations et comprendre. Après, il y avait la production, parce que on avait une façon de produire, comme je l'avais expliqué aussi on avait déjà discuté, mais c'est qu'au départ on faisait des petites productions, donc on avait un petit atelier, etc., mais on n'avait jamais pensé comment faire une production avec des plus gros volumes. Donc il y avait un gros travail à faire sur le sourcing, sur les ateliers avec qui on travaillait, et aussi même une façon aussi comment faire pour instaurer une relation avec notre façonnier, parce que forcément on passait souvent en dernier, il respectait pas forcément toujours les délais, etc. Et puis nous aussi on était quand même très désorganisé, donc on venait pas du tout avec des fiches techniques, on n'avait pas de dossier pour aller à la production, etc. Donc c'était fait un peu comme ça à l'arrache, et il fallait régler toutes ces problématiques. Et aussi il y avait un gros travail à faire aussi au niveau des marges, parce que ça aussi c'est quelque chose sur lequel il fallait travailler, qu'on n'avait pas réfléchi en amont parce qu'on faisait de la vente en direct. Bah, c'est ça, c'est parce qu'en fait, on faisait de la vente en direct au départ et on se posait pas la question de savoir comment ça fonctionnait à partir du moment où où il y avait des distributeurs ou des boutiques qui entraient en jeu. Mmh. Et ça, du coup, il fallait retravailler tout ça et repenser tout ça. Et on a eu la chance avec Guillaume et Pascal de travailler sur tous ces aspects. Et puis voilà, ça nous a permis de pouvoir anticiper surtout sur la saison qui allait arriver. Mmh. Et ça, c'était hyper important. Et je pense que c'est la base aussi. Donc c'était bien de commencer par ça, même si c'était très violent. Enfin, violent dans le sens où moi, voilà, de toute façon, tout ce qui est partie financière, etc., c'est pas ce dans quoi je suis le plus à l'aise, mais il fallait le faire parce qu'il faut comprendre, je pense, si on veut avancer et évoluer dans ce milieu.
Et là t'apprends de façon, enfin, la courbe d'apprentissage, elle est exponentielle parce qu'en fait, il faut remettre les compteurs à zéro dès le départ, il faut se remettre d'aplomb, il faut remettre les bases, enfin, refaire des bases assez solides. Donc c'est très violent. Mais il y a quand même cet accompagnement où ils sont. En fait, grosso modo, ça se passe comment ? Vous mettez autour de la table et vous réfléchissez ensemble. Quoi.
C'est ça. Ce sont des réunions qu'on a sur des demi-journées au départ. Hein. On faisait 4 heures.
Après, ça dépend effectivement de la marque. Nous, ce qu'on fait quand les marques sont sélectionnées, sur la première promotion, c'était une sélection faite entre guillemets en interne sur des marques que moi j'avais identifiées que. Et sur la deuxième promotion, il y a eu un appel à candidature, comme sur la troisième là qu'on est en train de lancer. Et en fait, sur le premier mois, donc entre septembre et octobre, avec les coachs business, donc Guillaume, Pascal sur la première saison et Émilie sur la deuxième, il y a en fait une phase de diagnostic. Où nous, en fait, on va aller regarder la marque, essayer déjà aussi d'un peu apprivoiser, comprendre, et c'est surtout détecter les besoins. Et à partir de cette mini-audit, de ce diagnostic, on le confronte à la marque en disant, voilà, nous, ce qu'on a vu, les chantiers qu'on a identifiés, c'est ceci, et on souhaite les travailler dans cet ordre-là. Et après, effectivement, il y a aussi le côté quotidien où au fur et à mesure, on voit d'autres besoins apparaître, etc., etc. Mais il y a toujours cette phase de diagnostic qui arrive en amont.
On soulève un peu tous les tapis, donc on a aussi les surprises qui vont avec. Ça, c'est évident. Après, ce qui est...
Sinon, c'est pas marrant.
Sinon, c'est pas drôle. Ça, c'est sûr. Et ce qui est important aussi, c'est de pas écraser les marques, trop de connaissances, ingurgiter rapidement. C'est vraiment d'être capable de distiller tout au long du programme. Mais effectivement, on est face à des gens qui transforment extrêmement rapidement dans la plupart des cas. Donc ça se fait assez naturellement.
Il y avait quand même un sujet que Priscilla, tu soulevais un peu plus tôt dans la matinée, on était sur un autre enregistrement, que toi tu fais vraiment attention, enfin vous faites vraiment attention à ne pas appliquer des méthodes toutes faites à chacune des marques, pour ne pas non plus les faire rentrer dans des cases. Tu peux développer un peu cette partie-là ?
Bah déjà tu peux pas les faire rentrer dans des cases parce que tu gères, il y a une partie que Guillaume a soulevé tout à l'heure, c'est que tu gères un créatif. Qui viennent du sérail, des écoles, du stylisme et autres, ou qui viennent d'ailleurs, il y a une démarche créative. Donc déjà ça se gère, ça se manage. Et effectivement, l'idée, c'est vraiment, et ça, c'est quelque chose sur lequel on fait hyper attention, c'est toujours d'être au service de la marque. Donc d'être toujours à l'écoute de la marque, de sa vision, de là où il a envie d'aller. Et s'il sait pas exactement là où il a envie d'aller, c'est le travail qu'avait fait Guillaume, par exemple, avec UNX Paris, c'est de se dire, OK, il y a un projet, il y a une envie, mais à un moment donné, il faut écrire l'histoire. Et on va être au service de cette histoire-là. Donc ça, c'est hyper important, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas décider à leur place. Moi, il y a un exemple, enfin c'est une métaphore toute bête hein, que je leur donne à chaque fois, mais j'ai toujours des exemples un peu à la con. Mais c'est comme si demain matin, je venais chez toi et je te disais comment t'habiller, quoi. Bah tu vas me dire, bah non, à un moment donné, je fais ce que je veux, quoi. Bah là, c'est la même chose. Ils restent capitaine du bateau, à un moment donné, ils prennent des décisions. Ces décisions, il faut qu'elles soient assumées. Et il faut qu'elle soit, enfin, il faut qu'ils soient convaincus. Enfin, à un moment donné, ça reste leur boîte, c'est leur choix.
Ils sont maîtres à bord. Ouais.
Donc, ils sont maîtres à bord. Nous, on est vraiment au service de ces gens-là.
Et on a beaucoup plus intérêt à appuyer les points de différenciation pour les marques que de les uniformiser, que ce soit d'un point de vue produit comme toutes ces choses-là. Ouais. C'est quand même un marché qui est de plus en plus compliqué, donc il faut donner aux marques, souligner leurs points de différenciation plutôt, je pense.
Après, c'est vrai qu'il y a aussi l'exercice et nous, l'agilité qu'on doit avoir, parce que il y a aujourd'hui, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de business models différents avec des gens. Avant, il y avait quand même majorité de gens qui faisaient du wholesale. Maintenant, ils font un peu de wholesale, un peu de digital. Ils ouvrent des cafés, ils font des pop-up. Enfin, ils font un milliard de trucs. Ils font des bouquins. Au début, ils faisaient du vêtement. Après, ils ont décidé de faire des chaussures. Enfin, donc c'est vrai que cette agilité-là, il faut la respecter sans perdre de vue cette cohérence et ce fil rouge pour que le consommateur final, encore une fois, il comprenne toujours le propos de la marque. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention, quoi. Mm-hmm. Et on est un peu là aussi, comme on a un peu ce rôle de garde-fou. Mais on peut pas effectivement appliquer des modèles préétablis parce que ils ont chacun leur personnalité dans la manière de créer leur business. Mm-hmm.
Toi, Youssouf, donc ça c'était le début. C'est quoi les autres milestones après que Talent t'a permis de passer?
On a eu ensuite, après on avait donc sur la production, on avait le financement. Donc on a parlé précédemment, mais on avait le financement aussi où il fallait être capable d'assurer les livraisons, étant donné aussi qu'on passait sur un autre modèle. Donc on avait le modèle donc sur le wholesale, etc., où ça demandait au niveau de la trésorerie. Donc il y avait des décalages qui se créaient parce que depuis le départ on était autofinancé et il fallait être capable de pouvoir gérer ça, et ça passait par le financement. Et on a eu la chance de monter, donc on est resté, je me rappelle, on avait passé toute une journée, voire même jusqu'à très tard, à la fédé, à travailler sur un dossier qu'on a présenté à l'IFSIC pour l'obtention d'un prêt qui nous a permis de financer nos productions et surtout le développement de collections. Donc ça a été aussi un gros chantier sur lequel on a travaillé. Après, il y avait aussi un volet sur la partie légale aussi qu'on a travaillé avec, qui a pris beaucoup de temps aussi.
Mais c'est quoi les problématiques de légal pour une marque?
Les problématiques de légal, c'est de propriété intellectuelle. Donc qui sont des problématiques. Après, je peux en parler sans entrer vraiment dans le détail, mais en plus nous on fait beaucoup d'imprimés et de print, donc forcément en fait très vite on peut se retrouver confronté à des problématiques de propriété intellectuelle. Et à titre personnel, moi j'ai jamais été confronté à ça, donc je savais même pas du tout comment ça fonctionnait. Et donc très vite on en a parlé avec dans le cadre du programme Talent avec nos coachs, et on a été mis en relation avec un cabinet d'avocats qui nous a permis de nous accompagner justement sur cette problématique. Et ça a été essentiel, parce que je pense que pour une jeune marque ça peut être fatal aussi si on se retrouve avec un procès et devoir payer une certaine somme d'argent. Si on n'a pas les moyens de le payer, on peut très vite en fait se retrouver à devoir mettre la clé sous la porte. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on a pu aborder, sur lesquelles on a été accompagné et qui ont été essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, avec le recul, je pense que sur le coup, voilà, on est dans le rush, donc il faut régler les problèmes. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis que si ce problème est arrivé sans le programme Talent, ça aurait été très, très difficile pour nous de se relever.
Ouais, et surtout que là, c'est quand même des coachs qui sont. Est-ce qu'il y a une participation, en fait, des marques au programme Talent, ou c'est gratuit?
Non, le programme est gratuit pour la marque, il est financé par Defi. Nous, on fait signer une lettre d'engagement en début de programme à chaque marque, effectivement, où on demande à la marque de s'engager sur différents points. Ils ont aussi.
C'est quoi, par exemple?
C'est vrai qu'on a la chance. Enfin, en tout cas, moi, j'ai la chance de convaincre des gens extrêmement qualifiés d'adhérer au programme, au niveau des coachs ou des différents experts, que je paye quand même nettement en dessous de leur taux horaire, pour être très très clair. Mais c'est une aventure humaine avant tout, et c'est vrai que je demande aux marques une certaine rigueur, disponibilité.
De savoir vivre.
De savoir vivre. Enfin, voilà, de pas arriver avec 3 heures de retard quand ils ont des coachings, d'avoir des engagements. Il y a des masterclass, donc des formats communs sur lesquels ils s'engagent à être présents.
Parce que s'il y a personne, ça leur fout mal.
Pas forcément, mais à un moment donné, c'est des choses qu'on fait aussi pour eux. Moi, perso, entre guillemets, je m'en fiche, mais à un moment donné, on les embarque dans un programme. Ils ont décidé
d'y adhérer, de
candidater à ce programme-là. Je veux dire, ils candidatent pas un peu là, un peu de là, un peu de là. C'est, ils prennent la totalité du programme. Après, on essaye aussi de faire en sorte que ce soit pas trop lourd pour eux. L'idée, c'est pas c'est pour ça qu'on a pris, comme le disait Guillaume, le volet opérationnel, parce que moi, je voulais pas d'un coaching où il y a des consultants qui viennent balancer du PowerPoint en disant, bah voilà, la stratégie digitale, faut faire ci, ça, ça. Ouais, non, on s'en fiche, quoi.
Faut que ça soit du sur-mesure, quoi.
Faut que ce soit opérationnel. Moi, je voulais de la ressource humaine externalisée, parce que c'est des gens qui sont tout seuls, voire deux, qui font
tout.
Donc, à un moment donné, voilà, je veux pas du théorique, quoi. Moi, je veux du pratique, je veux des gens qu'on aide, qui avancent, qu'on fait avancer.
Et des consultants qui mettent les mains dans le cambouis à leur côté, quoi.
Et c'est ce qu'ils ont fait, honnêtement, avec un engouement certain.
On arrive, enfin, ça demande du temps, le programme talent. Alors, on essaie que ce soit le moins prenant possible, parce qu'on sait qu'ils ont leurs obligations. Et de toute façon, nous, on est certes opérationnel, mais on n'est pas là pour substituer à qui que ce soit. Donc, grosso modo, nous, on donne les directions, on donne les conseils. Après, ils les appliquent pas, mais surtout, la partie de mise en œuvre, elle appartient aux marques, sous notre supervision, évidemment. Donc ça, c'est la première chose qu'on demande aux marques, c'est du temps et de la disponibilité des chefs d'entreprise, des décideurs, parce que c'est pareil, on peut pas travailler avec des gens qui n'ont pas le pouvoir de décision. Et la deuxième chose, c'est l'information. Ça aussi, on a besoin d'une information totale. Des choses qu'on essaie de faire passer dans le programme, c'est que les décisions, elles se prennent, suivant le niveau de décision, évidemment, mais d'un point de vue global. C'est cohérent. Et on peut vite déséquilibrer tout un pan de l'activité juste sur une décision malencontreuse par ailleurs. Donc nous, on a besoin d'une vision globale et donc on a besoin d'une information totale, spécifiquement financière. Ça, c'est quelque chose qui est très important et ça fait partie des choses qu'on demande au programme, enfin aux marques.
Typiquement, c'est quoi? C'est visibilité de
bilan,
tout
l'accès à la comptabilité, toutes ces choses-là. C'est d'ailleurs souvent, voire la majeure partie du temps, par là où on commence et qu'on est regardé un petit peu dans le
diagnostic. Ce qui rentre, ce qui sort, d'où vient l'argent,
la situation financière, parce que c'est là où on peut vraiment regarder les capacités d'investissement, la possibilité de mener tel ou tel projet, telles actions de réorganisation. Il y a des marques où on arrive et effectivement, on se rend compte que la situation financière est intenable. Donc, on commence par rétablir la situation financière.
Très bien. Je vais me tourner vers Diane, la fondatrice de Mico. Bonjour Diane.
Bonjour.
Toi, est-ce que tu peux nous expliquer, grosso modo, avant d'arriver dans le programme Talent, où est-ce que tu en étais et quels ont été pour toi, un peu comme j'ai fait avec UNX et Youssouf, les différents chantiers, les premiers chantiers sur lesquels tu as travaillé avec Talent?
Moi, en fait, j'avais créé une première marque avec une associée où on faisait que des blousons et des sweatshirts. Et en fait, avec Mico, j'ai voulu aller plus loin. Et tout d'un coup, je me suis dit, bon, bah, génial, je vais faire une marque, je vais faire un vestiaire complet, ça va être super. Ouais. Je viens du graphisme et de la DA, et c'était pas du tout mon
ton champ de compétences, ouais.
Voilà, exactement. Et du coup, je me suis un peu lancée comme ça, avec la fleur au fusil. Et donc, quand je suis arrivée au programme Talent, j'avais fait deux collections. Et j'étais, justement, je savais pas très bien ce que j'avais de bien et de pas bien, et quelles étaient mes forces et mes faiblesses. Et déjà, en arrivant dans le programme, on arrive à comprendre en fait ce qu'on a accompli déjà seul, et c'est déjà hyper rassurant de comprendre sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Et après,
intégrer le programme Talent, c'est déjà une certaine...
Exactement.
Enfin, c'est un soulagement d'une certaine façon.
Ouais.
Il valide une certaine, enfin, deux trois trucs quoi. C'est cool.
Exactement. Ouais. Et moi qui suis seule, en couple, mais pas dans le travail.
Business, ouais.
Moi qui suis seule, c'est vraiment agréable d'avoir des gens qui vous prennent par la main et qui vous disent on va tout regarder ensemble, on va faire ça ensemble. Donc ça, c'était vraiment ça m'est
beaucoup
au cœur. Ça soulage. Après surtout de mettre le nez et les mains dans le cambouis et de regarder exactement tout ce qui va et tout ce qui va pas, évidemment.
Quels ont été les gros chantiers pour toi, grosso modo?
Donc moi, les gros chantiers, en fait, j'avais ce que j'avais de bien, c'était une com et une image assez forte, avec des pièces assez fortes. Le problème, c'est que toutes les pièces de la collection étaient très fortes. Donc c'était très compliqué, par exemple, pour des acheteurs de se projeter, de faire une silhouette et qui où ils pourraient se dire que c'est commercialement viable, en fait. Du coup, voilà, là j'ai été directement pluguée avec une experte en plan de collection, fantastique, qui m'aide là encore à chaque étape. Je la cite puisqu'on a le droit, c'est Valérie Radnac. Et voilà, elle a tout de suite regardé les silhouettes. Déjà, pareil, elle nous a rassurés en disant, bah, c'est super. Vous êtes sur la bonne voie, etc. Elle a changé quelques silhouettes, quelques pièces, et voilà. Et on s'est retrouvé avec une collection beaucoup plus cohérente et plus facile à porter, en fait.
D'accord. Donc ça, c'était vraiment le gros chantier de départ.
Ça, c'était le gros chantier. Après, il y avait aussi le fait de comprendre, grâce aux chiffres, son activité. Moi, je regardais pas tellement mes marges. Je me disais, bon, ben voilà, je faisais tout à l'à peu près. Alors, j'ai un super atelier qui me livre des produits finis. C'est génial. Et en même temps, ben justement, ça n'aide pas à mettre les mains dans les chiffres, puisque finalement on a un produit fini, mais on regarde pas combien vaut le tissu, où est-ce qu'on peut économiser tel et tel poste, le zip qui vient de là ou là, le tissu japonais ou le tissu finalement qu'on achète à côté, voilà. Donc ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus posée de son activité.
D'accord.
Et plus réelle et concrète.
D'accord. Donc ça, c'était vraiment les gros chantiers du départ, quoi.
Ouais.
D'accord. Et après, dans l'évolution, ça j'imagine que c'était vraiment le début pour remettre les choses à plat. Là, t'étais dans la première promo ou dans la seconde promo?
Seconde promo.
D'accord, seconde promo. Donc là, c'est encore en cours. Ça se termine quand d'ailleurs?
En juillet ou septembre?
Mi-juillet.
Ça se termine mi-juillet.
Mi-juillet. Et Diane, c'est un cas un petit peu particulier, en fait.
D'accord.
Dans le programme.
Okay.
C'est la marque la plus jeune, je crois, qu'on ait jamais eu. Et ce qui était intéressant, ce qu'on a vu tout de suite chez Diane, c'est effectivement la force du produit, la force de son univers aussi, de sa communication et toutes ces choses-là. Ce qui, pour nous, était quand même suffisamment intéressant pour qu'elle intègre le programme. Et c'est l'occasion aussi de partir du bon pied dans son aventure. Finalement, c'est très tôt. Elle se structure très tôt. Il y a à ses côtés quelqu'un aussi qui est dans l'aventure, qu'on a intégré. Ça fait partie des choses qu'on a fait ensemble, qu'on a intégré au pilotage de la boîte pour qu'il y ait une vraie visibilité. Et donc voilà, sur les chantiers en cours, après on a encore des volets de type effectivement production et un travail sur le commercial qui doit se faire aussi.
Mais là tu soulèves un point qui est très intéressant sur l'intégration de quelqu'un sur le pilotage. C'est quoi? C'est quelqu'un du réseau de la fédération? C'est comment? Expliquez-nous, est-ce qu'on peut en parler ou si on peut en parler, c'est cool.
C'est en fait Diane a un partenaire qui était distant de l'activité et il nous a paru important
de le ramener
dans l'activité, de lui donner de l'information. Typiquement une marque de mode, ça a quand même une économie assez particulière. On en a parlé, on a vite des problématiques financières de trésor qui se lèvent, d'autant plus que la marque commence à performer. Donc avec Diane dans nos discussions, on a jugé bon de travailler un reporting qui permettait de donner la visibilité et puis de l'inclure à nos séances de coaching pour qu'ils prennent conscience des spécificités de notre business.
D'accord.
Qui sont nombreuses et pas toutes forcément intuitives.
Voilà. Très bien. OK.
Donc ça, c'était une partie, ouais, comme.
Et intégrer des marques aussi jeunes, parce que il y a combien d'existences en fait chez Mico Mico?
Ben j'ai 2 ans, enfin je fais ma 4e collection.
D'accord. Ouais. Donc ça fait dire qu'au bout d'un an d'existence, t'as réussi à rentrer dans le programme Talent.
Ouais,
c'est ça. Et c'est quelque chose que vous voulez renouveler chez Talent ou pas forcément, ou en prendre une à chaque session, quoi. C'est...
Je pense que
c'est du cas par cas.
C'est des coups de cœur qu'on a au niveau des sélections, quoi.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Après, c'est vrai qu'on se veut quand même un peu agile et de réagir en fonction des projets qui arrivent.
Bien sûr.
On s'adapte.
Ouais. très bien.
Malheureusement, on peut pas prendre toutes les marques non plus. Effectivement,
oui, c'est
il
ça.
Y a un moment où. Ouais. Mais comme on reste sur une volonté d'avoir des marques qui ont un potentiel, un fort potentiel, Mico Mico en faisait partie, donc elle a intégré le programme. Il y a des typologies de marques qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Généralement, quand on a une seule personne à la tête des marques, c'est ça pose des problématiques généralement plus lourdes que quand on a des couples ou des binômes ou trois ou plus d'ailleurs personnes.
Vous voulez compléter des choses? Je vous regarde. Non, moi j'aimerais bien qu'on parle plus en particulier de thématiques. Enfin, comme je voulais au départ orienter l'interview sur la partie modèle économique. C'est quand même un sujet qui revient souvent. On en parle tout le temps. Est-ce qu'on part en direct to consumer? Est-ce qu'on part en wholesale, etc. Comment elles arrivent les marques? Est-ce que ça vous arrive de leur faire changer de modèle économique, de modèle de distribution en tout cas?
Voilà. Priscilla me regarde, donc je pense que ça allait pour moi celle-là. Elles arrivent toutes avec un modèle économique, je vais mettre des guillemets dessus, une idée de modèle économique.
Une volonté.
Une volonté de modèle économique. Après, tout l'objet de notre coaching, c'est de soit valider ce modèle économique, mais sur des bases réalistes. C'est-à-dire, on vient analyser chacun des grands domaines. De toute façon, ça, c'est une cible. Généralement, la volonté, c'est de vendre, donc on réfléchit à la cible. Et tout part de là, la cible, comment on va la toucher? Et ça détermine à la fois les communications, mais la distribution. C'est-à-dire, est-ce que cette cible, elle va dans les grands magasins? Est-ce qu'elle va l'acheter sur Internet?
Comment on la définit, cette cible, alors, justement?
C'est un long travail avec les marques où on vient réfléchir avec eux sur leurs valeurs, sur ce qu'ils veulent exprimer.
Sur la plateforme de marque.
Et c'est là où la plateforme de marque arrive en pointillé. Voilà. Hein, ouais. Je te vois avec sourire, donc c'est qu'on y revient. Elle est derrière, elle existe.
Ouais.
Maintenant, on peut pas arriver troisième séance avec des gens qui, comme le disait Youssouf, ont quatre incendies en cours et leur dire, toi, on va s'arrêter là, on va faire 10 séances ou 5 séances de plateforme de marque, puis on va mettre tout le reste de côté.
C'est ça qui est périlleux sur l'accompagnement, et c'est pour ça aussi que nous, les comités de suivi sont importants, parce que ça valide le point d'étape de la marque, mais ça valide aussi notre stratégie d'accompagnement. Et en fait, tout l'exercice qui est pas simple, c'est de gérer en même temps l'opérationnel en se disant il faut sortir une collection quoi qu'il arrive. Et puis en fait, on a quand même 4 ou 5 incendies à éteindre maintenant. Et puis ce qu'on disait aussi, ces fameux espaces-temps où on se dit faut quand même réfléchir un peu à moyen terme, mais attends, mais là quand même après-demain il se passe un truc qui peut faire fermer la boîte, donc c'est tout ça sur lequel il faut réussir à jongler et surtout leur faire prendre conscience de ces différentes temporalités qui existent, quoi. Et après, les business models, que ce soit eux, nous, les experts, on n'a pas la science infuse. Donc après, des fois, il y a des tests qui sont faits en se disant, est-ce qu'on fait des salons? Est-ce qu'on va direct web? Et ça, entre guillemets, c'est après le marché qui répond. Mais je veux dire, même nous, on a des interrogations, on ne sait pas tout.
Oui, bien sûr. Ça vous est arrivé de retourner complètement une marque, de retourner son modèle économique ou pas du tout?
Je pense qu'elle était là avec nous, oui. Unix, ça a été un travail de fond. C'est la marque qu'on a le plus ils se sont le plus transformés au cours du programme. Puisque le produit en entrée de programme et le produit en sortie de programme n'a plus rien à voir.
C'était deux marques différentes. Mais la marque en sortie ça a vraiment été un accouchement pour le coup. Je fais beaucoup de références à ça en ce moment.
Est-ce qu'il faut spécifier pour les gens qui ne savent pas que Priscilla vient d'être maman?
Je reviens de congé maternité. Voilà. Donc je suis hyper au taquet sur la maternité.
D'ailleurs, dans les timings du programme, ça se sent. On a un début qui est un peu... qui est un peu lent pour eux, Mais en fait, c'est là où tout se joue, puisque nous, on prend de l'information, on prend de l'information, on prend de l'information, et il y a une accélération dans le programme qui est une fois qu'on a commencé à vraiment toucher du doigt. Et typiquement pour Unix, c'est OK, bah on part d'où? Bon, bah notre axe, c'est celui-ci. OK, bah maintenant on déploie. On met tout en place. Et là, par contre, ça s'accélère. Mais ça va très très vite.
C'est pas schizophrénique pour les coachs d'être sur autant de marques en même temps?
C'est urgence un petit peu des fois. Ouais. La fédé.
C'est vrai qu'on a fait urgence. On a fait urgence, c'était assez drôle. Ou effectivement, je sais pas, c'était un soir en plus.
C'est tout cela.
Il y avait, en fait, je sais pas, il y avait plusieurs urgences chez plusieurs marques. Donc en fait, peu importe le bureau dans lequel on allait, il y avait une marque de talent avec un coach, quoi.
D'accord.
Ça devenait n'importe quoi, un coach qui passait d'un bureau à un autre. Enfin, c'était n'importe quoi ce soir-là. Alors après, là où on fait quand même très attention, et moi où je fais aussi très attention, parce que pour le coup c'est en partie ma responsabilité, c'est de faire matcher des gens au-delà des compétences et des besoins détectés. C'est vrai que je vais pas forcément mettre tel expert avec telle marque, parce que humainement
ça collera pas.
Bah, je me dis que ça, potentiellement, ça collera pas. Ou au contraire, moi, je me souviens d'un coach qu'on avait présenté à MCR. La première rencontre, elle a été un peu sportive. Et je savais que ça allait être un peu comme ça. Mais en même temps, je savais que c'était ce qu'il leur fallait. Et ça a été le cas avec une autre marque. Après, c'est aussi de se dire, moi, je suis sûre du coach que je mets en face. L'avantage entre guillemets, et ça je les remercie beaucoup, parce que la plupart du temps ils me font confiance. Donc ils se disent, bon, ok, il a l'air un peu bizarre, mais bon, si elle me l'a mis en face, c'est que
il y a une raison.
Sur la partie schizophrénique, en plus nous en coach business on est vraiment sur l'ensemble des marques et on passe de l'une à l'autre. Je pense que c'est, j'imagine en tout cas à notre niveau, dans notre vie, c'est quelque chose qu'on a appris à gérer, ça va. En revanche, ce qui est surprenant, c'est l'énergie que ça draine. Parce que les discussions avec les marques, quand on va avec des créateurs, on va les chercher dans leur personne, quoi. Donc des fois, les discussions, elles vont loin. Plusieurs fois, je suis sorti de séances de coaching de 2 heures, j'étais cramé. Non, on arrive, je pense, on a l'habitude de switcher en permanence d'un sujet à un autre. Et ça nourrit, d'ailleurs.
Oui, tous les projets se nourrissent.
Ouais, absolument, parce que les problématiques qu'on visite avec une marque peuvent eux-mêmes d'ailleurs apporter une réponse originale à laquelle nous on n'a pas pensé, dont on peut se servir derrière. Donc non, tout ça se
s'auto-alimente.
Mais c'est vrai que le travail le plus compliqué est vraiment sur les coachs business, qui voient quand même qu'ils sont déjà les coachs référents du programme et qui voient l'intégralité des marques, et qui sont en partie aussi qui déclenchent. En partie les coachings experts, donc c'est vrai qu'ils ont une responsabilité qui est un petit peu plus lourde que des experts.
On peut les citer. Il y a qui dans ces coachs business?
Il y a Guillaume. Ouais. Sur la première promotion, il y avait Guillaume et quelqu'un qui s'appelle Pascal, qui aujourd'hui a pris la direction de la maison Mugler. Et sur la deuxième promotion, toujours Guillaume et quelqu'un qui s'appelle Émilie et qui a pris la direction financière de la marque sœur.
D'accord. Okay.
Talent fournit aussi les marques. Hein.
Oui,
j'ai un vrai vivier qui tourne.
Très bien. J'aimerais qu'on parle plus en particulier de stratégie de communication, réseaux sociaux, web marketing. C'est quand même des sujets qui sont brûlants dans toutes les marques de mode. Comment vous accompagnez les marques sur ces sujets-là? À quel niveau elles sont en général à chaque fois? Racontez-nous.
C'est quand même assez dispersé en fonction des marques. C'est vrai qu'elles n'ont pas du tout la même approche et la même volonté sur la partie digitale, réseaux sociaux. Il y en a qui sont très très avancés et d'autres pour qui les réseaux sociaux, ça reste encore assez mystérieux. Donc ça dépend vraiment de la marque. Après, nous, cette année, on a mis un accompagnement supplémentaire sur cette partie digitale. Et Constance Dubois, qui est la directrice communication de la fédération, intervient aussi dans le programme, où elle va chercher des experts qu'elle connaît bien aussi sur ce sujet-là, parce que pour nous c'est un volet qui est important. Et en tout cas, en fonction du niveau de développement, que ce soit une marque très très digitale entre guillemets, très connectée, ou qu'il l'est beaucoup moins, ça reste aujourd'hui un volet qui est essentiel.
Mais on peut exister aujourd'hui sans réseaux sociaux ?
Oui, il y en a qui existent sans une activité. Bah, ça dépend du produit. De toute façon, on a quand même deux marques qui sont aujourd'hui avec
très
nous.
Digital, enfin.
Qui sont très digitales, en tout cas qui ont un produit qui passe extrêmement bien en digital. Mico Mico et MCR Maison Châteaurouge, c'est des marques très visuelles, très graphiques. Mmh. Donc oui, c'est fait pour les réseaux sociaux. On peut avoir des marques où ça se joue moins à ce niveau-là. On est peut-être plus sur un produit qui se porte, qui se touche, qui se... enfin, c'est la rencontre avec la marque, quoi. Ouais, l'expérience peut être différente. Donc, les enjeux sont pas les mêmes pour tout le monde. Néanmoins, aujourd'hui, oui, de toute façon, tout le monde est obligé d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Toujours, la fédération pense plutôt bien les choses, puisque l'accompagnement sur le marketing digital, il a aujourd'hui la volonté de couvrir l'intégralité d'une opération. Donc, ça va être vraiment de partir de la stratégie de la campagne de marketing et de l'accompagner jusqu'à l'analyse des performances et le ROI. Ça couvre quand même un champ très large.
Tu peux nous donner des exemples ?
Vous donner des exemples. C'est en cours, c'est pas encore finalisé, mais voilà, c'est de se dire, on a une marque aujourd'hui qui, par exemple, Mico, qui arrive vraiment sur le wholesale. L'idée, c'est de mettre en place une stratégie d'accompagnement avec établir les besoins un petit peu de visibilité sur la saison qui va arriver en wholesale, mettre en place les contenus, potentiellement les faire réaliser, et puis derrière la campagne elle-même, jusqu'en analyse derrière pour voir quels ont été les retours en termes de performance followers, toutes ces KPI, toutes ces métriques qu'on utilise, et puis voir aussi la performance commerciale, puisque avec l'outil de vente en ligne dont toutes les marques disposent aujourd'hui, on a quand même un laboratoire à portée de main pour expérimenter. Et encore une fois, des marques peuvent beaucoup plus réfléchir à expérimenter. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup travaillé d'ailleurs l'année dernière avec Maison Châteaurouge, où ça fait partie de leur stratégie. C'est les leviers derrière de vente. Donc,
tu peux nous en parler, Youssouf, peut-être plus spécifiquement. Qu'est-ce que vous avez mis en place avec l'arrivée chez Talent
sur la partie
communication digitale, web marketing, comme réseaux sociaux, etc.
Alors, il faut que je me replonge dans...
En fait, non, l'idée, c'était... parce que c'est vrai qu'il avait un fonctionnement qui était B2C à la base. Ouais. Il y a le B2B qui s'est rajouté, donc il a fallu déjà maîtriser les temps du B2B. Et en fait, à un moment donné, il a été complètement absorbé, accaparé par l'énergie du B2B. Et en fait, là où on a essayé de revenir avec lui là-dessus, c'était de se dire, attention, t'as quand même une forte demande qui arrive directement du consommateur, soit par ton e-shop, soit par tes réseaux sociaux. Donc, c'est comment on canalise, entre guillemets, ces demandes avec des opérations ciblées, qui étaient en tout cas dans le spectre de ce qu'il était capable de fournir. Donc c'était en fait d'équilibrer tous les canaux de distribution par rapport à ses moyens, à sa structuration, et sans pour autant se dire on va faire une super site internet ou des perfs de dingue, mais c'est de se dire voilà, aujourd'hui ils sont structurés de telle manière, il y a tant de personnes, il y a une demande qui est forte, il y a une origine aussi de la marque qui est B2C, mais en même temps il y a un développement B2B. Comment on fait pour jongler avec les deux correctement et qu'il y ait de la performance derrière sans que ce soit une usine à gaz pour eux. C'était vraiment ça l'enjeu.
Il y avait aussi le fait d'avoir une personne dédiée aussi sur les réseaux sociaux dans notre organisation. Parce que sur l'organisation, au départ, en fait, tout le monde avait accès au compte Instagram, Facebook, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment de ligne directrice et de stratégie. Donc, on avait une personne qui était dédiée. Et ensuite aussi, on avait aussi un travail à faire parce qu'on avait eu entre-temps une collaboration avec Monoprix qui est venue. Donc, il y a drainé énormément de passages sur le site internet, etc. Et il fallait être capable de gérer ça. Donc, il y avait aussi une partie à faire sur la logistique. Comment on réalise nos envois? Avec qui on travaille? Est-ce qu'on prend un partenaire? Parce qu'au départ, tout était fait seul à la boutique. Donc, il y avait toutes ces aspects sur lesquels il fallait travailler. Mais il fallait être capable, en fait, de trouver le bon équilibre entre le digital et le physique. Et ça, c'est un travail sur lequel on a fait un gros travail sur ça, parce qu'on a une boutique donc qui est située à Rumira dans le 18e arrondissement, et il fallait être capable de pouvoir allier les deux et ne et ne pas laisser ça de côté, parce que c'était quand même notre principale activité au départ, même si le wholesale a pris de plus en plus d'importance, mais il fallait être capable de pouvoir gérer encore cette partie vente en direct. Et puis il y avait aussi la relation client qui était hyper importante, le fait d'être capable de pouvoir répondre et puis trouver un ton. Donc il y avait tous ces éléments sur lesquels il fallait se poser des questions, parce qu'au départ nous on se posait aucune question, on le faisait naturellement, alors qu'en réalité, et je pense que c'était un point qui était essentiel, c'est qu'il étant donné que l'équipe s'agrandissait, il fallait être capable de pouvoir transmettre, et pour pouvoir transmettre il faut mettre sur papier et il faut avoir une stratégie qui est claire, et ça c'était important du coup pour nous d'aborder tous ces points et de les mettre sur papier pour ensuite après pouvoir déléguer.
C'était je me souviens très bien, c'était très intéressant et c'est assez symptomatique de comment on travaille dans le programme. On avait commencé à parler de drop, puisqu'on voulait aussi quand même maintenir une certaine attractivité du site face au B2B qui se développait, et on se disait qu'en travaillant des drops, ça permettait d'avoir de l'exclus sur le site.
Qu'est-ce que c'est des drops?
Des drops, c'est des capsules qui sont mises en vente à intervalles réguliers, plutôt
en
resserrées,
édition limitée,
en édition limitée, exclusives sur la plateforme en ligne, mais qu'on peut après réintégrer, pourquoi pas, suivant leur performance. En partant de cette idée, on a vraiment travaillé avec Maison Château-Rouge sur tout le rétro-planning et jusqu'où ça allait, y compris d'un point de vue financier, parce que finalement, il faut les financer. Ça, c'était assez amusant de voir comment on est parti d'une idée. Justement, on se dit, on fait des drops, super, allons-y. Donc, combien on peut vendre? Qu'est-ce qu'on a comme source d'information pour être capable de déterminer combien on peut vendre? D'accord, il faut les faire quand? Ok, il faut être prêt en communication pour évidemment avoir un trafic et un taux de transformation intéressant. Et puis évidemment, avant, il faut les mettre en production. Et donc, on a remonté la chaîne comme jusqu'en haut pour avoir une stratégie solide et qui s'appuie sur de l'information et non pas de l'intuition, comme j'aime
c'est
bien
important.
Le répéter souvent.
Alors ça c'est un vrai sujet que tu soulèves, l'intuition versus l'information. À partir de quand il faut arrêter d'écouter son intuition?
Jamais. Généralement, ce que je dis, c'est que quand on n'a pas d'information ou quand on n'en a pas assez, à un moment, la seule chose à laquelle on peut se fier, c'est l'intuition. Et généralement, les chefs d'entreprise qui sont dans le programme ont déjà suffisamment développé de choses. On peut préjuger que leur intuition est bonne. Par contre, en comptabilité, l'intuition, ça marche moyennement. On va être, très honnête. Il y a des secteurs comme ça où ça s'applique mal, l'intuition. Donc il faut essayer de se doter du maximum d'informations. Aujourd'hui, on vit à une époque où on est capable de trouver facilement beaucoup d'informations. Et il faut arriver à la rassembler, à l'analyser. Parce qu'encore une fois, de l'information, c'est rien. C'est aussi quelque chose qu'on fait beaucoup avec les marques, c'est leur montrer comment on fait parler des chiffres, même sur un bilan. On peut faire parler un bilan. Et après, effectivement, c'est des projets créatifs qui reposent sur une intuition créative. Donc là, par contre... Mais c'est pas mal de les nourrir en leur disant, on va faire un peu d'analyse de tes ventes. Qu'est-ce qui a vraiment fonctionné? Ils ont des surprises eux-mêmes, finalement. Ils ont l'intuition que ce qui vend bien, ça va être une typologie de produits. Puis ils réalisent derrière dans les chiffres, dans les analyses pures et dures, que pas du tout, c'est complètement autre chose.
Il y a une phrase sur laquelle il faut quand même assez se méfier, c'est ça, ça a cartonné.
Ah oui.
Ah, j'en ai vendu combien? Celui-là, il a cartonné. Ah. Et on parle de 5 pièces. Cette phrase est magique.
C'est vrai. Moi, j'aimerais revenir sur un point par rapport à l'intuition. Je pense que finalement, l'intuition, on l'a parce qu'on a, emmagasiné beaucoup d'informations. C'est le fait d'avoir eu plein d'informations, de capter en fait ce qui se passe, etc. C'est ce qui nous permet ensuite d'avoir cette intuition et de prendre les bonnes décisions. Même si parfois on ne sait pas quand est-ce que l'idée elle vient. Après, c'est parce que je regarde des conférences sur le cerveau en ce moment, donc je suis en plein dedans. Mais parce qu'on a une partie du cerveau qui fonctionne de façon très linéaire et très logique, mais on a une autre partie en fait qui prend de l'information et qui la traite. Après, on est incapable de savoir comment c'est traité. Mais cette partie du cerveau qu'on a l'impression d'être endormi en fait continue à fonctionner tout le temps. Et parfois, en fait, on a des informations qui passent d'une partie à l'autre, et c'est ça qu'on appelle l'intuition, mais qui en fait, c'est le cerveau qui a travaillé des informations jusqu'à nous apporter une réponse. Et c'est là où, du coup, en fait, finalement, ces deux choses sont liées, et c'est important de garder ça en tête, parce que beaucoup de personnes pensent que l'intuition, c'est juste, on se réveille, on sent quelque chose, alors qu'en fait, pas du tout. C'est qu'il faut faire beaucoup de veille, il faut se renseigner, il faut lire énormément. Et de là, en fait, l'intuition devient bonne.
Comment on grandit en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous, vous accompagnez les gens sur du développement personnel, sur mieux s'organiser, etc.? Il y a un autre sujet aussi que je veux aborder, c'est comment on s'entoure quand on est entrepreneur, et comment vous accompagnez au travers du programme Talent les gens à bien s'entourer, à choisir les bonnes personnes, à faire les premiers recrutements, etc.
Moi, il y a un point sur lequel je veux revenir, et je pense que j'en ai jamais parlé, mais le programme m'a permis de prendre énormément confiance en moi. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout en arrivant, parce que justement, j'avais jamais eu vraiment de retour de professionnel sur ce que je faisais. Donc moi, je le faisais de mon côté, ça fonctionnait, mais je me posais pas de questions. Et là, dans le cadre du programme, en fait, on a beaucoup échangé avec les coachs, avec Priscilla, avec Guillaume, etc. Et en discutant et à travers nos différents échanges, en fait, je me suis aperçu qu'il me faisait confiance et que pour eux, en fait, il y avait une vraie vision. Alors que moi, en fait, je me posais pas cette question. Et ça, ça m'a énormément donné confiance en moi. Et ça a été essentiel après, après sur les différents coachs, sur le choix, etc. Donc, on a eu la chance de travailler avec Étienne, par exemple. C'est quelqu'un auprès duquel j'apprends énormément aussi. Et je pense, en fait, on se nourrit à la fois, ils ont leur expertise, mais aussi on apprend d'eux de ce qu'ils ont fait, de comment ils travaillent, etc. Et en fait, c'est tout ça qui nous enrichit. Donc, au-delà même de la partie marque, développement de marque, etc. D'un point de vue personnel, c'est un apprentissage qui est énorme, et c'est, on a de la chance en fait de pouvoir côtoyer des personnes experts comme, comme les coachs de la, du programme, parce qu'on apprend énormément, et je pense qu'en termes, en année, moi j'ai, je pense que j'ai pris beaucoup là.
T'as pris 10 ans.
Ouais.
On le dit depuis tout à l'heure, la partie humaine, elle est au cœur de tout.
Ouais, tout le temps.
C'est-à-dire qu'on on voit, on teste un petit peu la personne qu'on a en face de nous, sa sensibilité, sa capacité à apprendre plus ou moins bien. Et qu'Olivier, ça va vite, on peut aller tout droit et dire les choses franchement. Il y a des marques où on est obligé de faire un peu plus de circonvolution pour arriver au même résultat. Il faut qu'il nous fasse confiance. Ça demande un peu de temps. Ça a demandé plus de temps sur la première édition, parce qu'effectivement, on n'avait pas non plus d'histoire, d'historique à leur fournir. Donc, ils nous regardaient un peu, mais vous êtes qui ? Ça, il y a eu des marques avec qui ça a demandé un certain temps vraiment qu'ils se livrent, mais on y est arrivé et voilà. Donc oui, on les accompagne forcément. C'est des aventures humaines, on peut pas dissocier les choses, leur vie impacte directement sur l'activité, donc on est obligé d'en tenir compte. D'ailleurs, ils se confient beaucoup, parfois énormément, ce qui rend les séances parfois vraiment intenses. Pour être honnête, on a des couples, on a des gens seuls, il y a des, tous ces paramètres à gérer. On s'adapte. On s'adapte en gardant. Mais le programme, il est à l'image des personnes qui le font. Priscilla, c'est de l'humain avant tout. Donc le programme, il est humain, quoi.
Et comment vous jugez que c'est une réussite, que l'accompagnement de la marque a été une réussite ?
Moi, s'ils sont heureux. Et à la limite, même si on ferme une marque et que ça les rend heureux, pas de problème.
Ouais. Je suis vraiment d'accord. C'est vrai que logiquement, on pourrait se dire, on va regarder les performances commerciales de la marque. Pour moi, c'est vraiment pas ça. C'est est-ce qu'il est, tout à l'heure, je te le disais, à un moment donné, il y a une question que je pose souvent aux marques, c'est quoi ton ambition? Parce qu'il y en a qui se disent, voilà, je vais être dans 300 points de vente dans le monde. Il y en a qui veulent ci, il y en a qui veulent ça. Bah, à un moment donné, tant qu'on est bien dans ses pompes et qu'on est content de faire ce qu'on fait, honnêtement, c'est le...
C'est l'essentiel.
Ouais, c'est l'essentiel. Et c'est vrai que je prends le cas du NX ou ce genre de choses. C'est vrai que ils ont tellement essayé de rentrer avec en mode chausse-pied dans ce côté très, enfin, sérail, voilà, la mode, faut faire comme ci, faire comme ça, faut avoir la com qui va bien comme ci, faut faire ça, etc. Ils ont essayé d'être très bon élève. Ils ont quand même une tendance à vouloir être bon élève. Et en fait, ça les rendait pas heureux, quoi. Très honnêtement. Et c'est pour ça que moi, souvent, enfin, ça a été le gros dilemme avec cette marque-là, parce que, en fait, je les voyais dépérir. Alors qu'ils avaient de plus en plus de com et que enfin que ça prenait entre guillemets au niveau de la presse et tout, mais eux je les voyais complètement et je leur dis enfin je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas et à un moment donné bah ça reste une industrie qui est dure avec un rythme qui est insoutenable aussi parce que ça s'arrête jamais Donc à un moment donné, enfin je veux dire, si on n'est pas content de faire ce qu'on fait, faut arrêter. Et faut aussi se dire que, enfin, et ça je l'ai dit à certaines marques, à un moment donné, ok, ça sert à rien non plus de se mettre dans des états dingues parce qu'on fait de la fringue, quoi.
Hein, oui, on va désacraliser le truc, enfin.
Ouais, ouais, faut.
Pardon. Par rapport au rythme, je trouve que c'est hyper important de le souligner. C'est que parfois on peut être, on peut avoir 1000 justement incendies, et en même temps on est toujours sur ce tapis qui avance, qui va vers la prochaine collection, où on doit pondre des nouveaux modèles, être hyper créatif, alors qu'on a 1000 galères, et que ça c'est un peu. C'est un terrible. Peu stressant, ouais. et c'est vraiment challengeant en fait de justement de pouvoir rester serein pour créer tout en gérant
les 10 incendies derrière.
Exactement. Mmh. Ouais.
C'est quoi les autres biais que vous voyez dans les marques, les autres problématiques, les autres erreurs, les autres ouais les biais, je pense que c'est le meilleur terme.
Oh bah on a l'embarras du choix.
les erreurs les plus communes.
Les plus communes, c'est de le plus souvent, c'est de se limiter à une vision créative et de pas trop se demander derrière comment ça se vend. Ouais, pas exactement comment ça se vend, mais de se dire que ça suffit. Souvent, d'ailleurs, beaucoup de marques considèrent que parce qu'un produit, une collection est faite, elle va se vendre. Derrière, on se rend compte qu'il y en a pas forcément tous qui se disent, bah non, il y a des actions à mener. Il y a pas rien qui sort en particulier. Je crois que toutes les problématiques sont très très différentes. Il y en a une qui revient de manière permanente, c'est le rapport au comptable. Le comptable doit être le meilleur ami des marques et il est souvent la pire angoisse des marques. Donc ça, c'est quelque
après,
chose
après, il doit être bon, le comptable.
Ah oui, effectivement, s'il est mauvais, ça aide pas.
Et comment on trouve un bon comptable alors?
Quelqu'un qui est recommandé par la Fédération française du prêt-à-porter féminin. quelqu'un qui a fait ses preuves, qui connaît le business et qui est capable de parler avec des gens angoissés, qui sont sans cesse sur le grill, qui doivent lancer des collections en permanence, qui connaissent la temporalité de notre métier, parce que ça, c'est un vrai sujet. Ce qu'ils disent tous, de toute façon, c'est que grosso modo, et même nous, on leur demande de le faire, ils sont noyés dans le
quotidien,
court terme.
Ouais.
Ils ont du mal à travailler le moyen terme, mais qui doivent se travailler dès maintenant pour que ce soit une réussite, et le long terme, assez rapidement, ce qui est donc leur projet initial et leur vision de développement. C'est après la deuxième collection, en général, on l'a oublié, on l'a enfermé dans une boîte et on a plus la capacité de le regarder. Notre travail, c'est aussi justement de structurer les boîtes pour que l'immédiat, le quotidien, le court terme ne les noie pas, et qu'ils aient du temps et de la disponibilité. Et c'est là où, en fait, se fait la bascule sur la stratégie. Pour le moyen terme. Et le long terme, c'est ce qu'on regarde au loin pour avancer.
Et pour ceux qui n'ont pas tous la chance d'intégrer le programme Talent, comment ça se passe?
La fédération, elle accompagne à peu près 600 entreprises par an. Donc il n'y a pas que le programme qui existe. Et puis après, il n'y a pas que la fédération. Il y a d'autres organismes. Donc on vit aussi au sein d'un écosystème qui peut apporter d'autres réponses. Enfin voilà, après il y a plein d'autres choses et puis qui existent. Après et puis il y a des marques qui ont pas besoin qui souhaitent pas se faire accompagner, qui ont pas besoin. Enfin, et après il y a plein de cas différents quoi.
Très bien. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'aurait pas abordé ou que vous voulez aborder?
Moi je remercie Priscilla et Guillaume. C'est de m'avoir supporté. non, mais je tiens quand même sincèrement à les remercier parce que ça a été d'une très très grande aide, vraiment.
C'est pas fini.
Et c'est pas fini, oui, mais déjà, honnêtement, enfin, on se le dit, c'est important aussi de le dire, je pense, parce qu'on est toujours dans le rush, dans le travail, etc. Et on parlait d'humain, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce qu'avant tout, on est, je pense que même avant de faire des entreprises, etc., chacun a sa personnalité. Et humainement, je pense que c'est quelque chose qui doit rester, ça doit rester au centre, en tout cas, de nos préoccupations. Et c'est très important. Et ils l'ont fait. Et pour ça, moi, je les remercie.
Pour les marques qui n'ont pas la chance ou la possibilité ou qui ne veulent pas participer au programme Talent, moi, j'ai un conseil malgré tout. C'est rencontrez-vous, entre vous. Les marques ont tendance à s'isoler en général. Souvent, elles s'inquiètent des possibles idées qui circuleraient d'une marque à l'autre ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un très mauvais calcul. Je pense qu'on est bien plus fort en échangeant et en partageant ces problématiques, ces solutions et toutes ces choses-là, plutôt que de rester seul dans son coin à souffrir et à se dire qu'on est seul au monde à pas y arriver, quand en fait, non, c'est une industrie qui est difficile. Donc, rapprochez-vous des institutions parce qu'elles sont là pour vous aider, première chose. Et elles le font, je trouve, très bien étant extérieur. Et la deuxième, bah, c'est ouais, rencontrez-vous, parlez-vous, échangez, et vous verrez comme ça fait du bien, et comme vous l'avez bien dit tous les deux, de ne pas être seul, c'est une sensation dans cette industrie rare et vraiment agréable.
Très bien. Eh ben, on finit sur ces beaux mots. Merci infiniment en tout cas pour votre temps.
Merci
et
à
puis
toi.
À bientôt. Salut. Si vous êtes encore là, c'est sans doute parce que vous êtes intéressé par ce programme. Si vous voulez postuler à ce programme, vous avez jusqu'au 24 juin. Pour candidater, eh ben c'est assez simple. Rendez-vous sur le site de la fédération www.prêt-à-porter.com. Il y a 4 dossiers à compléter et à renvoyer avant le 24 juin. Si votre dossier est retenu, vous recevrez un appel de la fédération pour vous informer de la décision et si vous êtes admissible au jury final qui sera un oral devant le comité d'engagement le 5 juillet 2019. Bonne chance.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.